Alors, si par exemple, je vous dis, l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que vous dites? Et je ne manquerai de rien. Eh bien, si je vous dis, il a été maltraité et opprimé. Oui, Isaïe, c'est bien, mais la suite, c'est quoi? Et il n'a point ouvert la bouche. Eh bien, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oula, on voit qu'il connaît sa Bible. Hein. Bon, on va faire autre chose. À toi la gloire. Ah, quand même. Avec un chant, parfois ça s'imprime mieux hein, dans le cœur. On dit la première phrase d'un chant et hop, ça devient un automatisme, la deuxième phrase arrive. C'est bien quand c'est aussi les versets, vous savez, hein. Quand vous avez le verset dans le cœur, on dit la première phrase et hop, la deuxième, elle suit. Et voilà. On va lire ensemble le psaume 22. Il est écrit ici, « Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent, les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. On va s'incliner dans la prière. Père éternel, merci pour cette parole inspirée, Seigneur, et pour ce temps où tu nous, 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 nous parle aussi, ou veut nous parler par les Écritures. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ton Fils Jésus-Christ, parole vivante. Et fais-nous du bien, Seigneur, nous avons besoin de toi encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je vous ai parlé d'automatisme lorsqu'on entend le début d'une phrase, que ce soit un verset ou que ce soit un cantique? Parce que ce psaume, il était dans la pensée des Juifs. C'était vraiment dans leur cœur, ils le connaissaient. C'était un psaume, donc probablement quelque chose qui était chanté. C'était aussi peut-être lu à la synagogue. Et quand on entendait « Eli, Eli, lama sabachthani », eh bien, il y avait toute la suite qui coulait. Ça venait d'une manière naturelle. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, dans le cœur des Juifs pieux, « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » Ça coulait. C'était la suite. Imaginez quand ils l'ont entendu dire cela sur la croix. Ce psaume 22 a été écrit par David, mais bien sûr, ça a été conduit par le Saint-Esprit qu'il a écrit ces lignes. Et seul Dieu peut faire une chose pareille. Ce sont les pensées et les paroles qui étaient dans le cœur, dans l'âme de Jésus-Christ alors qu'il était sur la croix. David écrivait, poussé par l'Esprit, et en même temps il était en train de parler de ce que le Seigneur allait vivre 1000 ans plus tard. Qu'est-ce qui était dans le cœur de notre Seigneur sur la croix? Qu'est-ce qui se passait dans son esprit? Lui qui, la veille, était dans le jardin de Gethsémané et priait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi !» Jésus savait ce qui allait arriver. Il était venu pour cela. Il était descendu sur cette terre pour mourir pour nos péchés. Il savait exactement ce qui allait se passer. C'était la raison même de sa venue. Alors il dit ensuite « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il s'est incliné devant le plan parfait, le plan divin parfait. Un homme parfaitement juste, parfaitement innocent, allait mourir pour des hommes complètement coupables, complètement condamnables. Alors il a été ballotté de Caïphe à Pilate, hein, au passage battu, fouetté par les soldats, ils lui ont donné des coups de poing. Et on finit par le clouer sur la croix dans d'atroces souffrances. Et là, il y a ce cri déchirant où il dit « Eli, Eli, lama sabachthani ?»« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Et là, Jésus est seul. Il est tout seul. Tout seul. Le Père et le Fils sont un de toute éternité. Le Père et le Fils ont toujours été liés, et là, l'esprit du Père se sépare de l'esprit du Fils. Et le Fils est là, dans un corps qui l'emprisonne, et il souffre sur cette croix, il est déchiré et il agonise. Et son sentiment dans cet instant, c'est l'abandon. Alors peut-être certains ont connu l'abandon dans leur vie. Vous savez ce que c'est que de vivre un abandon, le sentiment d'être seul. Verset 3, il dit « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. » On peut avoir parfois le même sentiment. On crie parfois vers le Seigneur et notre sentiment c'est « Mais Dieu ne répond pas à ma prière. Je demande, je supplie et Dieu n'intervient pas. » C'est le silence. « Je crie la nuit et je n'ai point de repos. » Il criait dans son âme, hein, et c'est le silence. Pas de réponse. Pas de réponse. Et sa solitude, elle était vraiment réelle, vraiment réelle. Pourquoi il y a eu des ténèbres en plein midi? Des ténèbres, c'était noir. Parce que la colère de Dieu était en train de s'exercer sur la victime innocente, Jésus-Christ. Jésus était en train de porter les péchés des hommes et le Père était séparé du Fils en cet instant. Et Dieu a exercé sa justice, il a jugé nos péchés sur cet homme innocent. Et donc il était seul avec sa souffrance, seul avec le poids du péché de l'humanité. Et vous savez, parfois, on peut ressentir la solitude. On peut ressentir une absence de Dieu. Comme s'il est loin, comme s'il est loin. Voilà, écarté. Il y a deux possibilités, vous savez. Soit nous ne sommes pas encore un enfant de Dieu. Et donc, bien que la Bible dise qu'il n'est pas loin de chacun de nous, eh bien, on ressent l'absence de Dieu dans sa vie. C'est possible. Peut-être qu'on ne s'est pas réconcilié avec Dieu. On ne l'a pas laissé entrer dans notre vie. Et vous savez, la Bible, elle dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent, qui mettent une séparation comme un mur entre vous et Dieu. » Et il y a un besoin de venir vers Dieu avec une attitude de repentance et de foi. Alors, eh bien, le mur va sauter et cet éloignement, cette absence de Dieu va être transformée. Dieu va rentrer dans votre vie. Si vous ne le ressentez pas, si pour vous il est absent, c'est un Dieu lointain, peut-être que vous n'avez pas encore fait cette démarche de repentance, de foi, pour lui dire « Seigneur, je crois en toi, viens, entre dans ma vie, je veux que tu sois présent, sauve-moi, je reconnais mon péché. » Mais peut-être vous avez aussi le sentiment de solitude, d'absence de Dieu, alors que vous êtes déjà un enfant de Dieu, et vous le savez. Vous êtes repenti, vous avez cru en lui, il vous a donné l'assurance de la vie éternelle, vous êtes lavé de tout péché, vous le savez, et pourtant, un sentiment d'absence de Dieu. Dieu semble lointain, mais le sentiment d'absence de Dieu, ça ne signifie pas pour autant que Dieu n'est pas là. Parfois, on peut avoir des sentiments, et ce n'est pas la réalité. C'est important de le comprendre. Avant de quitter les disciples, la dernière fois qu'ils ont vu Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit ? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est une promesse, c'est un engagement. Et Dieu tient toujours ses engagements. Donc, si on est chrétien, si on sait qu'on s'est réconcilié avec lui, mais Dieu est là. Il est là, avec nous. Et il ne faut pas se laisser submerger par un sentiment de solitude. Les sentiments, vous savez, ça va et ça vient. Voilà, ça bouge, hein, ça monte, ça descend. Peut-être, alors c'est vrai aussi que dans la nature humaine, peut-être plus pour une femme qu'un homme, en général c'est un peu plus stable, bien que les hommes aussi peuvent faire le yo-yo. Hein. Mais voilà, ça peut monter et descendre, comme ça. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais ce ne sont pas les sentiments qui doivent nous conduire. Ce sont la foi, c'est la foi dans les promesses de Dieu. C'est ça qui doit être le moteur, hein, la locomotive qui nous traîne et qui nous amène en avant. La foi dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une réalité. Il ne nous quitte pas, il ne nous quitte jamais. Et si on a l'esprit, si on l'a reçu, alors on est scellé du Saint-Esprit. C'est, voilà, Dieu s'est lié à nous. Il s'est ancré dans notre âme. Il s'est imprimé. Hein. Voilà, on fait un dans l'Esprit avec lui. Les sentiments ne sont pas les plus importants. Vous savez, quand la mer est agitée, il y a des creux parfois de 7, 8 mètres, 10 mètres. Voilà, on est ballotté à la surface. Hein. Et si vous plongez, et vous descendez à quelques dizaines de mètres, c'est le calme. Calme. Il n'y a plus de tempête. C'est terminé. Et de la même manière, dans la vie chrétienne, quand on est en surface ballottée et agitée dans tous les sens, il faut plonger dans les Écritures, plonger dans les promesses de Dieu. Et là, ça se calme. On retrouve le calme. On s'apaise. Qu'est-ce que Dieu dit ? C'est ça qui est important. C'est pas ce que je ressens, c'est ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Et c'est vraiment important, vous savez, pour la stabilité dans la vie chrétienne. Dieu nous veut stable. Il veut pas qu'on soit agité dans tous les sens. Si les circonstances font que nous sommes parfois sur une mer agitée, eh bien, il ne faut pas suivre le mouvement des vagues et partir de droite et de gauche ou dans le sens du vent. Parce que si c'est le cas, c'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà, on est ballotté comme une coquille de noix à la surface de la mer. Et le problème de cette instabilité, eh bien, c'est que c'est les sentiments qui dirigent notre vie. Quand c'est les sentiments, eh bien, c'est vraiment le yo-yo. Un jour, ça va, tout feu, tout flamme. Je sers le Seigneur. Et puis le lendemain, pouf, il y a quelque chose qui ne va plus et ah oh ben non, et hop, et là je fais marche arrière, je démissionne, je ne remplis plus mes responsabilités, je ne veux plus rien faire. Ah non, ne me demandez pas. Non, non. Et non, c'est pas ça qui doit nous diriger. Dieu veut nous délivrer de cela. Il veut qu'on soit stable, ancré, constant, qu'importe ce qu'on ressent. Vous savez, voilà, si on se laisse aller vers les sentiments, eh bien, si c'est ça le moteur qui propulse notre vie, on n'avancera pas très loin. Dieu est avec moi, ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Dieu est avec moi et Dieu eh bien, me conduit et je peux m'appuyer sur ses promesses, il est fidèle. Et alors je reste stable, constant dans ce que je dois faire. On peut dire que ce que Jésus a connu sur la croix, on ne le connaîtra jamais comme lui, bien sûr. On ne peut pas le connaître si on est un enfant de Dieu, cet abandon comme lui l'a ressenti sur la croix. Notre Seigneur criait le jour, la nuit, pas de réponse, la solitude. Versets 4 à 7. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Pourquoi la solitude ? Tu es le Saint, tu es le Saint, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu irréprochable. Et même les Israélites, avec tous leurs défauts, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel répondait. La grâce de Dieu se manifestait. Dieu entendait. Il n'était pas confus. Mais le Fils de Dieu, là, est seul. Il crie et il a le sentiment de ne pas avoir de réponse. Il dit même, et moi je suis un ver et non un homme. Il faut prendre la mesure de cette phrase. Le Fils de Dieu dit, je suis un ver et non un homme. C'est terrible. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a fait les êtres humains, il a créé les êtres humains, il a créé toute cellule vivante, il a tout créé et il se compare à un ver, un être vivant, simple, basique, n'ayant pas de conscience, pas d'âme, pas d'esprit. Quel contraste, quelle humiliation. Un ver, c'est à la merci des hommes. Vous savez, on l'écrase, c'est terminé. Et Christ était là, faible, crucifié, à la merci des hommes. Il est même devenu la honte des hommes, le méprisé du peuple. Et la crucifixion, c'était un châtiment honteux. On mettait le criminel honteux, on l'exposait à l'agonie. C'était ça. Versets 8 et 9. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. C'est terrible de se sentir piqué dans la confiance que l'on a mis en l'Éternel. Ben alors, où est ton Dieu ? Où est ton Dieu ? Il n'a rien fait là ? Il t'a laissé tomber ? C'est un peu comme l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal, vous savez ? Sauf que c'est l'inverse. Le feu ne descend pas du ciel. Et les prophètes de Baal, ah, ils se moquent bien. Alors, où est ton Dieu ? Ça, c'est terrible. C'est terrible. Comment on vivrait une telle scène ? Comment on réagirait ? Que dire ? Que faire ? Regardez versets 10 et 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et lorsqu'on est attaqué comme ça dans nos pensées, parce que c'est le diable aussi, hein, qui nous attaque dans nos pensées, on est accusé, on est humilié. Quand le diable veut nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous avant l'épreuve. Partir et reculer. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie avant que nous vivions cette attaque ? Et l'homme a une mémoire très courte. Et quand il se sent criblé, battu, écrasé par l'épreuve, eh ben, on est dans le noir en fait. On ne voit plus rien. On n'arrive plus à penser. On ne pense plus correctement. Et on se focalise sur notre malheur, sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qu'on subit. Mais il faut revenir à l'origine. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Ici, le psalmiste, inspiré par Dieu, nous révèle une pensée, hein, alors qu'il était en croix, il s'est souvenu de l'amour de Dieu dans son incarnation. Dieu m'a aimé, Dieu m'aime toujours. Et c'est aussi cela qu'il faut faire. Il faut regarder non aux circonstances qui nous plongent dans le désarroi, mais il faut plutôt se souvenir de l'amour de Dieu, et j'ai envie de dire pour nous chrétiens, à notre nouvelle naissance. Il faut revenir à notre nouvelle naissance. Se souvenir de votre conversion. Souvenez-vous de votre conversion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il vous a tendu la main ? Comment il vous a sorti de la boue ? Comment il a mis une joie et un bonheur d'être en sécurité, sauvé, pardonné, admis dans le royaume céleste, dans son royaume de lumière. Comment vous êtes devenu un fils, une fille de Dieu, sauvé par grâce, pardonné, racheté, purifié par le sang de l'agneau. Oui, tu m'as mis en sûreté, tu m'as placé sous ta garde, dès l'origine, tu as été mon Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité. Il faut se remémorer cela. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu à cette prière que Dieu n'est pas là avec moi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu à cette prière que Dieu ne m'aime pas. Non, c'est faux. Dieu n'a pas changé. Et la preuve de son amour s'est manifestée le jour où il est venu nous chercher dans le péché et nous a mis sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Versets 12 à 14. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Vous imaginez là aussi ? Personne ne vient à mon secours. Il est vraiment seul. Il est seul. Les disciples sont terrorisés. Qu'est-ce qu'on peut faire devant l'autorité romaine ? Et il est entièrement seul. Des taureaux de Basan. De nombreux taureaux de Basan. Basan, c'était une région à l'est du lac de Tibériade. C'était apparemment une région très fertile. On y faisait eh bien, des élevages. Donc, il y avait pas mal de taureaux, de vaches. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un prophète, le prophète Amos, qui compare les Israélites qui aimaient le luxe aux vaches de Basan. Il dit, voilà, vous êtes comme les vaches de Basan, vous vous engraissez. Et on peut imaginer ces taureaux, vous savez, comme quand parfois ils s'unissent. J'avais vu une fois une émission, enfin un reportage où ils montraient des buffles qui entouraient un prédateur pour protéger un petit. Et bien lui, il est entouré, voilà, il est l'ennemi, il est entouré de tous ces taureaux qui sont autour. Il les compare aussi au lion qui déchire, qui rugit, qui ouvre la gueule, transposé à ces juifs religieux, hein, ces pharisiens qui étaient autour. Il vocifère, il hèle. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Voilà, ils vocifèrent tous autour de lui. Un peu plus loin, il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Les chiens, ben là c'est plutôt référence aux Romains. Voilà, c'était les païens. Des lions, des taureaux, des chiens qui en veulent à sa vie. Et là, le Seigneur décrit ce qui se passe dans son corps. Verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Là, on voit la souffrance physique. Intérieurement, il est comme de l'eau qui s'écoule, il se fond. C'est difficile de l'imaginer quand on ne l'a pas vécu. La crucifixion, dans le fait d'être pendu par les mains, il y a une tension très forte parce que le poids nous entraîne, fait que nous descendons et il y a une douleur affreuse. On a du mal à respirer. Souvent, un crucifié meurt de l'asphyxie, en fait, parce qu'il ne peut plus respirer. Et s'il pousse sur ses jambes, il a la douleur horrible des jambes pour se soulager. Et il alterne entre pousser et se laisser tomber, et il finit par suffoquer. Il dit « Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Quelle a été l'une des paroles de Jésus sur la croix? C'est « J'ai soif ». J'ai soif, desséché, déshydraté. Et vous savez, quand vous mettez tout ça ensemble, il y a eu les coups, il y a eu la flagellation, ces tissus percés, ces chairs, ces os qui sont touchés, même s'ils ne sont pas brisés, une douleur intense. Tout ça ensemble, cette déshydratation, il arrive que le cœur lâche. En fait, malheureusement, ils ont fait... j'ai lu que des nazis ont fait des expériences et voilà. Le cœur finit par lâcher. Et peut-être c'est ce qu'il décrit quand il dit « mon cœur se fond ». Voilà, le cœur commence à faiblir en fait, à faiblir. Verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça, c'est une prophétie faite 1000 ans avant Jésus-Christ. Et là, tout est écrit. C'est noir sur blanc. Les Juifs pouvaient le lire. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est une prophétie qui nous annonce, qui nous parle de Jésus en croix. Et le texte est précis. Verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » Souvent, les crucifiés, on leur brisait les jambes, comme ça, ils ne pouvaient plus se soulever, et là, ils mouraient très rapidement. Et en quelques minutes, asphyxiés, ils finissaient par mourir. Et Jésus-Christ a été percé. Plutôt que de briser, on a voulu vérifier qu'il était déjà mort, et il était déjà mort. Et donc, on n'a pas brisé ses os. Je pourrais compter tous mes os. Verset 19, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » C'est ce qu'ont fait les soldats, vous le lisez dans les évangiles. Sa tunique était d'un seul tonnant, une tunique précieuse, et plutôt que de la déchirer, ils ont dit, on la tire au sort. Et puis un des soldats est parti avec. Un dernier cri de notre Seigneur, versets 20 à 22. « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. » Et même s'il a le sentiment d'être seul, il ne cesse pas de prier. Il ne cesse pas d'invoquer, de demander. Et nous aussi, il faut qu'on ne cesse pas de prier. Alors on arrive ici à la charnière, on peut dire une charnière du psaume. Verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » De quoi ça nous parle ici? Ça nous parle de la résurrection. « Je publierai ton nom. » Il est sur la croix, il est en train d'agoniser, il va mourir. Et il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères. » On peut le relier peut-être à cette parole quand il dit à Marie de Magdala « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le psaume 22 nous parle de loin qui est en train de souffrir, en train d'agoniser, mais ici il dit « Je publierai, je célébrerai au milieu de l'assemblée, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et donc il vivra, il ressuscitera. Alors, versets 24 et 25, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car, et ce car est très important, il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Il faut souligner le car, là. Il faut l'encadrer, ce car. Vous vous souvenez, le psaume commence avec le cri de détresse. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Ça, c'est le sentiment de notre Seigneur. Et parallèlement, c'est notre sentiment, parfois. L'abandon, la solitude, Dieu n'écoute pas nos prières, Dieu ne répond pas, il est absent, il est lointain, il ne se soucie pas de nous. Mais ça, c'est faux, complètement faux, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Dieu entend, même si je ne le ressens pas, Dieu entend. Dieu entend, Dieu est là, il voit les peines et il est sensible. Par exemple, lorsque Sarah a chassé Agar, même si Agar n'avait pas raison de provoquer la jalousie de sa maîtresse, Dieu a vu Agar et il a vu son enfant. Il a vu les cris qui étaient dans le désert. Il est écrit que quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a entendu. Dieu a entendu. Il a entendu la voix de l'enfant, il a entendu Agar et l'ange de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange de Dieu, c'est Christ en fait. Hein? Et Jésus-Christ a appelé du ciel Agar et lui a dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu ta voix. » Pardon, a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu a secouru la mère et l'enfant. Tous les deux ont été secourus. Dernièrement, je lisais l'évangile de Matthieu. Et c'était touchant de voir Jésus qui, à un moment, dit, bon, allez, il dit à ses disciples, on va monter vers le nord. On va aller vers Tyr et vers Sidon. Un pays païen, quoi. Enfin, toute une contrée qui était païenne. Et là, eh bien, il y a cette femme, vous vous souvenez, hein, cette femme cananéenne qui s'est mise à crier parce que son enfant, sa fille, était tourmentée par le démon. Il est écrit, il ne lui répondit pas un mot. Ignoré. Fais pas attention à elle. Il ne répond pas un mot. C'est quoi ? Ben, c'est le silence. C'est l'indifférence, en apparence. Le Fils de Dieu ne fait pas cas d'elle. C'est terrible. Mais elle ne se décourage pas. « Secours-nous !» elle dit. « Secours-nous !» Jésus lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » La femme répond, « Oui, mais les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. »« Femme, lui dit Jésus, « qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il redescend immédiatement en Galilée. Et c'est touchant, mais on se dit en fait, il est venu rien que pour cette femme. Il est venu pour rencontrer cette femme. Et donc, en apparence, c'est le silence. Il ne répond pas. Mais en réalité, il va répondre. Il va répondre. Il entend le cri de détresse de cette mère. On imagine cette mère, hein, quand vous avez un enfant et vous voyez votre enfant qui part dans tous les sens. Hein. C'est un cri, « Seigneur, Seigneur !» Et Dieu a entendu. Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui, ou quand elle crie à lui. Ça, c'est ce qu'on doit retenir ce matin. Il ne faut pas se fier à ce que je ressens. Qu'est-ce que Dieu dit ? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole ? Je dois me nourrir, hein ? Et c'est jamais vain de l'invoquer, de l'implorer, de demander et de demander encore. Il faut plonger profondément là où c'est calme, dans les promesses de Dieu. Alors oui, on peut vivre des épreuves, mais de la même manière que le Fils de Dieu est passé aussi par le creuset, il en est ressorti. Et Dieu, ben, de la même manière, il va nous faire sortir de la peine, des peines et des difficultés, de l'abandon ou du sentiment d'abandon et de la douleur. Je vous lis Romains, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça veut dire quoi? Pour nous, enfants de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Jamais on ne pourra être abandonné. Impossible! C'est impossible! Ce sentiment est mensonger. Il est faux. Il n'existe pas. Il faut le repousser loin. La réalité, elle est tout autre. Dieu m'aime. Il m'aime toujours. Il m'aimera toujours. Il ne m'abandonnera jamais. Ça, c'est la vérité. Vous avez dans le psaume toute cette description de la crucifixion. Vous avez cette résurrection imagée. Et puis ensuite, la suite, eh bien, vous décrit le millénium, en fait. C'est le millénium. On rentre là et on voit Christ qui règne. Il a été abaissé, il sera souverainement élevé. On va lire les versets 26 à 29 pour terminer. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Faut l'associer avec Matthieu, le sermon sur la montagne, chapitre 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera. Heureux, c'est le millénium. Voilà, les malheureux mangeront, ils se rassasieront. Verset 28, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Voilà une description du millénium. Jésus glorifié règnera sur toutes les nations. Quel juif, quel romain ou quel spectateur de la scène de la crucifixion pouvait s'imaginer que le futur ce serait ça? Jésus-Christ qui règne, Jésus-Christ qui est glorieux, qui a vaincu, qui est élevé. Et vous savez, la fin de l'histoire, de ce que nous vivons, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On peut, quand on regarde notre vie, on regarde les circonstances, on regarde ce qu'on est en train de subir, on se dit « Oh là là, c'est terrible !» Mais ça, ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand on est enfant de Dieu, ça ne sera jamais la fin de l'histoire. Ce ne sont pas les peines d'un misérable, ce n'est pas la solitude, la fin de l'histoire, mais c'est la gloire des enfants de Dieu. C'est un avenir, une espérance glorieuse. Et si on passe par ce même genre de sentiment, eh bien ce n'est pas la réalité. La vérité, c'est que Dieu m'aime, il m'aimera toujours. Et la fin est bonne. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez lui rendre grâce, vous pouvez le faire librement. Peut-être je vais commencer, je vais demander à François de terminer. Seigneur, merci Père, parce que tu as donné ton Fils bien-aimé et il est monté sur cette croix, ou plutôt on l'a élevé sur cette croix, Seigneur, afin que nous puissions regarder à lui et recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Seigneur, un regard de foi, un regard pour croire et être sauvé. Merci Seigneur, parce que quand nous croyons que tu es mort pour nous, tu nous sauves et tu l'as fait. Tu l'as fait pour moi. Merci de m'avoir sorti de la boue du péché. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont à toi avec cette assurance du pardon. Seigneur, que tu veuilles tendre la main et faire couler, Seigneur, de la croix, le pardon aussi pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être sauvés. Seigneur, sauve-les. Tends-leur la main et qu'un regard de foi les sauve, s'il te plaît. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.